Salut les optimistes, moi c'est Seb.
Et moi c'est Léna.
Bienvenue dans notre second épisode de l'optimisme de Prisme.
Où nous accueillerons Livio Bortoletti, assistant de scolarité à BSB. Nous allons parler de son parcours avant d'arriver à Dijon et comment la culture est au centre de sa vie.
C'est l'optimisme, oui l'optimisme, c'est l'optimisme de Prisme. Le podcast qui te fait rêver avec des mots qui vont te charmer.
Alors bah déjà bonjour et merci d'être là avec nous aujourd'hui. On va commencer par une petite fiche de l'invité qu'on a l'habitude de faire où on pose des questions simples. La première étant votre prénom.
Moi c'est Livio et du coup je suis assistant de scolarité à l'école de commerce de Dijon, la BSB, et je m'occupe des pré-masters.
Est-ce que vous avez un surnom ?
Alors j'avais un surnom mais bon je garde quand même ce surnom un petit peu sur les réseaux, mais ouais mon surnom c'est Ciccio.
Okay.
Donc c'est l'italien, c'est l'abréviation de Cicciolotto, et Cicciolotto, on va pas faire un cours des sémiologie, mais c'est l'équivalent de petit bout de chou en français.
D'accord.
Mais après, à mauvaise, enfin ça peut être aussi utilisé à mauvaise escient, et ça veut dire grassouiller. Et vu mon physique, ça me correspond très bien.
D'accord, oui, tout à fait. Donné par qui ?
Par ma famille en Italie, tout le monde m'appelait Ciccio, Livio Ciccio.
Quel est votre âge ?
On donne une fourchette ou pas ? Ou faut donner
un vrai âge ? Vous pouvez, comme vous vous sentez à l'aise avec.
Non, mais l'âge du Christ.
Tu veux dire ça. Votre parcours scolaire ?
J'ai eu un parcours très différent. Donc, très tôt, j'ai été décelé dyslexique.
Mm-hmm.
Donc, à mon époque, qui n'est pas si lointaine, c'était quand même quelque chose de pas spécialement reconnu. Donc, il n'y avait pas d'école spécialisée, comme il peut peut-être y avoir aujourd'hui. Mais du coup, j'ai fait un parcours classique avec beaucoup d'embûches. Mais j'ai quand même passé tout ce qu'il fallait passer, le brevet des collèges. J'ai fait un bac STG, qui aujourd'hui est STMG, je crois. Oui. Donc, spécialisation en communication et gestion des ressources humaines.
Mm-hmm.
Pour après partir à la Sorbonne, en fac de cinéma.
Okay.
Où j'ai eu une licence en cinéma audiovisuel.
Mm-hmm.
Et voilà. Et je voulais pas faire un master, c'est trop d'études, trop long, trop chiant. Mais moi, je suis pas copain avec l'école, donc...
C'est un peu un dilemme, du coup.
Ouais, bah c'est une ironie de la vie. Ouais. C'est assez drôle de se dire qu'on a fini l'école, et plus jamais j'y vais. Puis tous les matins, c'est mon boulot, donc ça occupe pas... Mais c'est pas le même type d'école,
non,
mais
oui, chose.
En tout cas,
c'est
l'ironie de la vie a fait deux, trois trucs, quoi.
La question suivante, mais vous y avez déjà un petit peu répondu, c'est votre profession.
Donc du coup assistant de scolarité, donc dit comme ça, ça représente pas grand chose, mais ce serait être responsable de toute une promo, sachant qu'une promo est toujours différente d'une année à une autre, que ça peut se faire sur un ou deux campus, que le nombre varie entre 190 et 350.
Mmh.
Et du coup être assistant de scolarité, c'est bon, bien sûr les choses simples, gérer les absences. Et être votre référent en termes d'échange entre la vie de l'école d'un point de vue pédagogique et vous les étudiants. C'est aussi plein d'autres choses, c'est-à-dire répondre à vos questions, vous aider pour vos orientations, vous présenter les différents parcours qu'on a, organiser des réunions, avoir des échanges privilégiés éventuellement avec les délégués, suivre des cas particuliers, ça peut être le cas, préparer les examens, faire des rattrapages, préparer des rattrapages, récupérer les notes, publier les notes, organiser, préparer et faire les jurys de semestre et de fin d'année dans lesquels on prend la décision sur les cours des étudiants, savoir si on remonte les notes, si on met des avertissements ou pas. Voilà, donc ça englobe vraiment tout ça à titre général.
C'est complet comme boulot, du coup.
Ça occupe pas mal, surtout quand vous êtes 200, ça occupe pas mal. C'est pas la plus compliquée, c'est différent chaque année, mais il y a des situations qui font que ça peut être plus délicat à gérer que désagréable. C'est jamais désagréable, c'est juste qu'on est face à un public qui est différent chaque année, parce que de toute façon, c'est aussi des générations... c'est pas vraiment une génération quand il y a une promo à l'autre, mais c'est d'autres expériences, donc un autre type de public, donc il faut s'adapter, mais c'est pas gênant. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant quand même. Puis malgré tout, on apprend. Tout au long de la nuit, on apprend, mais moi, je préfère apprendre comme ça avec vous, c'est plus sympa.
C'est vrai. Est-ce que vous avez une passion ?
Ouais, ma passion, c'est le cinéma. Du coup.
Okay.
Et l'audiovisuel, mais principalement le cinéma.
Et du coup, pourquoi le cinéma où...
Je me suis toujours persuadé que c'était dû à ma dyslexie, parce que du coup, ma dyslexie, on l'a décelé assez rapidement quand j'étais en... Enfin, assez rapidement, quand j'avais 6 ans.
Mm-hmm.
En fait, j'ai toujours, avec l'orthophoniste, travaillé avec des images pour apprendre dans ma vie tout le temps. Ce qui fait que moi, dès qu'il y a des mots encore aujourd'hui, ça me... c'est pas ce que je préfère, mais j'ai tout appris via l'image. Je trichais même à l'école, c'est-à-dire quand on avait des livres à lire, moi j'essayais de choper la version en film.
Ok.
Pour... Je l'ai lu. Je l'ai oui. vu aussi, mais je l'ai lu. Et du coup, voilà, j'ai beaucoup travaillé avec l'image. Je me suis beaucoup exprimé avec l'image. Je me suis émancipé grâce à l'image. Donc le cinéma, ouais, ça paraissait une évidence. Après, par contre, il m'a fallu du temps pour savoir ce que je voulais faire dans le cinéma, et il m'a fallu aussi du temps pour comprendre que ça allait être un point très important dans ma vie.
Quelle est votre chanson du moment ?
Ouh ! C'est une bonne question. La chanson du moment ?
Mm-hmm.
Ou une chanson préférée, hein.
Oui.
Je sais pas, moi, ça marche au feeling. En ce moment, j'aime beaucoup celle de Pierre de la Star Academy. Quoi. Vraiment. En ce moment, c'est celle-ci. Après, sinon, moi, je suis un amoureux de Jacques Brel et Edith Piaf, donc okay. Je peux les écouter pendant des heures, et de la musique classique, mais sinon, ouais, celle du moment, ça va être celle-ci, quoi.
Ok.
Très bon choix sur le Jacques Brel et Edith Piaf.
Merci. Mais, en fait, c'est je les connais pas la Star Academy.
Mais c'est top, la Star Academy. Oui.
Ah, j'avoue, j'ai grandi, ouais, j'ai grandi avec, et ceux de l'année dernière, ils étaient nuls. Ceux de cette année sont très très bien, et franchement, j'ai adoré. Et pour l'anecdote, Pierre... est toujours le meilleur ami d'un étudiant qui était en PM l'an dernier.
Ah, okay. Trop drôle.
Donc c'était assez marrant de voir ça, c'était drôle. Bref, ça c'est en exclu. Et Pierre c'est
le gagnant de
la Starac, ouais. Et il a okay. une voix qui est assez dingue. Enfin okay. tout lui va, ça énerve.
Okay.
Moi je sais pas chanter mais ça énerve. Ouais. Si je savais chanter ça m'énerve encore plus. Du coup je n'ai pas trop de regrets mais ça énerve. Non, il est très bon. Mais sinon ouais non, Jacques Brel et Edith Piaf ouais, c'est okay. tout ce qui est chanson à texte. Mais après je suis un fan, enfin j'aime beaucoup Imagine a Dragon mais je fais.
Très bon
en fait moi j'ai travaillé dans l'événementiel aussi, j'ai fait beaucoup de zénith et de spectacles. Okay. Ce qui fait qu'aujourd'hui le concert moi j'en peux plus. Donc, 3 ans tous les jours en concert, c'est bon, ça suffit.
Et quel est votre film préféré?
Alors, il y en a beaucoup, mais un, celle-là, j'ai réfléchi. Mais un que j'aime énormément, c'est City of Light, donc Les Lumières de la Ville de okay. Charlie Chaplin,
ouais.
où déjà, c'est une merveilleuse histoire d'amour, tout simplement. Et ensuite, dedans, pour moi, il y a la plus belle scène du cinéma muet et du cinéma au monde, la plus belle scène d'intelligence, où le personnage féminin est aveugle, et on est à l'époque du muet. Donc faire comprendre à un spectateur que le personnage est aveugle, sans le son, ça donne le début de City of Light. Donc je vous raconte pas la suite, mais Chaplin s'est pris la tête pendant 7 à 8 jours pour savoir comment il allait faire comprendre au téléspectateur que le personnage était aveugle.
Okay.
Et puis il y a une très belle fin qui est géniale aussi, donc...
Est-ce qu'il y a une personnalité pour vous qui est marquante ?
Il y en a beaucoup, alors pas forcément dans le cinéma, donc moi il y a Charlie Chaplin forcément, mais il y a aussi Mandela, beaucoup, qui s'est battu pour ses convictions, et sans armes, ni violence, donc c'est impressionnant. C'est des parcours qui sont incroyables et ouais, qui m'inspirent pas mal.
Bon, sur ça, je pense qu'on a un peu parlé en somme. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que vous voulez rajouter sur votre parcours ? Entre du coup la sortie d'école et le métier que vous avez aujourd'hui, après votre licence audiovisuelle.
Bah après moi j'ai un parcours vraiment atypique, donc j'ai pas de conseils à donner. Moi je pense que j'ai une vie professionnelle très bordélique. Il y a rien qui a été programmé comme moi je voulais, donc. Je me suis toujours débrouillé et une ironie de la vie fait qu'aujourd'hui j'en suis là. Mais ouais, j'étais parti sur du cinéma. J'ai créé mon collectif avec rien. J'ai fait une licence où la licence en fac, c'est différent de ce que je connais de l'école de commerce aujourd'hui. Mmh. C'est que vous n'avez que un stage si vous le souhaitez en dernière année ou sinon c'est un mémoire. Mais il n'y a pas d'alternance ou autre chose. Donc moi à côté, je faisais énormément de figuration. Ce qui fait que je joignais la pratique à la théorie. Donc j'ai appris un peu en autodidacte. En même temps, à côté, pour payer mes études, je travaillais dans la restauration. J'en ai fait pendant 5 ans. Une fois que j'ai fini la restauration et que j'ai eu mon diplôme en poche, bah, je me suis lancé sur mes films. Et pour faire mes films, donc l'écriture, ça coûte rien, mais produire le film, ça coûte. Donc j'ai travaillé dans l'événementiel, où je travaillais au Zénith de Paris, au Grand Rex, donc ouvreur, placeur, gestion des PMR, billetterie, etc. Et après, j'ai tout quitté du jour au lendemain. Je suis arrivé sur Dijon et j'ai fait beaucoup, beaucoup d'intérim. Mmh. Et après, je suis rentré à BSB en commençant à l'accueil. Mmh. Et je me suis retrouvé après à la scolarité où bah, il s'avère que c'est devenu un métier passion, quoi. Mmh. Donc avant d'arriver à la scolarité, je savais pas encore ce que je voulais faire de ma vie. Sachant que le cinéma, bah, voilà, faut en vivre. Et on n'en vit pas forcément au début. Mmh. Donc ça reste compliqué. Mais il y a eu cette opportunité-là et franchement, aucun regret, quoi. Le métier enfin, est tellement enrichissant parce que d'une promo à l'autre, même si on fait les mêmes choses à des périodes, notamment par exemple les examens, les rattrapages, toujours la même chose, les mêmes périodes, mais le public n'est pas le même, quoi. On a des étudiants qui savent déjà ce qu'ils veulent faire, donc on apprend énormément sur eux. D'autres que bah, moi, je suis très content de pouvoir les aider, les orienter et leur trouver des solutions. Donc, c'est hyper enrichissant et franchement, aujourd'hui, ouais, c'est ça, ce serait vivre de ça, quoi, au moins dans le domaine de l'éducation.
Quel était votre lien avec la culture quand vous étiez plus jeune ?
Pour moi, c'était indispensable. Ça a toujours une place pour moi hyper importante. Donc, quand j'étais jeune, il y avait la carte UGC moins de 26 ans. Mmh. Donc, c'était du cinéma au minimum 3 fois par semaine. Ça coûtait pas cher. Ouais. Les expos de la Cinémathèque qui changeaient tous les 6 mois et qui m'intéressaient, j'y allais. J'ai eu la chance aussi en travaillant dans l'événementiel du coup d'assister à beaucoup de spectacles comme je disais, mais en plus c'était une période où l'accord Hôtel Arena, donc anciennement Bercy, était fermé, donc on avait les gros concerts, on avait Lady Gaga, on avait Robbie Williams, donc j'ai eu la chance d'avoir ça. Mais la culture a toujours été intéressante et en fait amène tellement de branches différentes, cinéma, télé, art, peinture, expo, vernissage, tout ça, c'est non-stop, quoi. Un dynamisme,
ouais.
Quel qu'il soit. Mais ouais, non, ça a toujours pris une place importante.
Pour vous, c'est quoi la culture ?
La culture, c'est un accès qui, pour moi, devrait être gratuit, ce qui est le cas sur Dijon, pour notamment les musées. Mais la culture, c'est ce qui s'allie ou ce qui vient en plus de l'intelligence. C'est-à-dire qu'on a l'intelligence. Je pense que tout individu naît intelligent. On est un disque dur. Après, la culture, c'est tout ce qu'on veut mettre dans ce disque dur. Donc, c'est pas s'intéresser forcément à tout, mais s'intéresser à ce qui nous plaît. Et donc, mais à la culture dans sa globalité, mais il y a la culture générale. Et en fait, c'est la curiosité. C'est la curiosité, c'est OK, on fait ça. Pourquoi on fait ça ? Pourquoi on a fait ça ? Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché avant et qu'on est venu à ça ? Enfin, voilà, il y a tout ça. Mais après, et pour moi, ouais, la culture, c'est quand même un point très, très important. Mondialement, parce qu'il y a les Césars, il y a les Oscars, il y en a différents types, il y a les Molières, il y a les Mostra à Venise, etc. etc. Donc en France, en tout cas, il y a un fort engouement quand même pour la culture, je trouve.
Tout à fait. Je crois bien que c'était pas un des premiers pays à vraiment pousser la culture sur le devant de la scène et vraiment le promouvoir, je crois, un truc comme ça.
Ouais, ça en fait partie.
J'avais lu.
Ça en fait partie. Bah après, il ne faut pas oublier que le cinéma est né de la France, la photographie aussi.
Ouais.
Donc, ouais, c'est juste qu'on n'a pas su exploiter les choses, qu'on était très. C'est moi qui l'ai fait, c'est à moi. Bah, ouais, du coup, c'est mauvais. Mais il y a quand même cette envie où les gens testent, ça marche, et puis ça. On continue là-dessus. Quoi.
Ce qui fait. Enfin, qui prend part un peu de notre histoire, quoi, du coup, ce qui nous permet d'arriver où on en est aujourd'hui. Quoi.
Bah, c'est ça, et puis connaître le cinéma comme on le connaît aujourd'hui, on est bien parti de quelque chose avant, et donc c'est dingue. L'histoire du cinéma est née sur l'étude du mouvement. En fait, c'était Étienne Jules Marais, qui était médecin, qui étudiait le mouvement, et qui filmait un homme en marche, enfin, ça s'appelle le chronophotographe, donc c'était de la. Il prenait plusieurs photos en rafale,
ouais, il les alignait.
Et ça faisait le mouvement. Et du coup, le cinéma s'est créé comme ça. Et c'est les Frères Lumière qui ont repris le système pour, avec la photo qu'ils connaissaient. Ils ont fait ça. Mais il y avait aussi la chute d'un chat pour voir tout son mouvement rotatif et comment il atterrit sur les pattes. Ouais. Donc à la base, c'était de la science.
Oui.
Et de la science est devenu une activité, un amusement et de la culture. Mais aujourd'hui, c'est indispensable. Je veux dire, on a tous besoin de culture pour se vider la tête, quoi. ou s'exprimer, tout simplement, il y a ça aussi.
Et du coup, vous faites comment, vous, pour promouvoir cette culture au sein de l'école de commerce de BSB?
Alors moi, c'est en tant qu'assistant scolaire, j'ai le côté un peu administratif et du coup beaucoup moins culturel, mais en tout cas, je m'intéresse à ce que font les assos. J'essaie d'échanger beaucoup avec les étudiants pour avoir leur retour et moi savoir comment, ce qu'ils font, ça m'intéresse à titre personnel. Et de l'autre côté, c'est principalement vous écouter, vous suivre dans vos projets, vous soutenir. Après, malheureusement, je peux difficilement, puisque là, il n'y a pas l'opportunité de pouvoir vous aider là-dessus. Mais en tout cas, ouais, je trouve que la vie associative est très importante et qu'il faut, faut maintenir ce que vous faites, qui est les projections, par exemple, de films quand vous le faites en amphi, les événements. Et puis là, au moment de la team admissible, aussi les choses, la chose toute bête que moi j'adore, c'est le spectacle qu'ils créent de bout en bout. Donc ça, ça reste quand même une belle chose. Donc c'est promouvoir, je sais pas si je peux le dire, je promeux, mais au moins je soutiens et c'est indispensable. Et moi qui étais en fac, il y avait, en tout cas à ma connaissance, il n'y avait pas d'assaut. Et bon, après on se débrouillait, hein, c'est pas le problème, mais je trouve que c'est hyper intéressant qu'il y ait des assauts, surtout là le nombre qu'il y a, je crois que vous êtes 22 ou 26 en termes d'assaut, donc c'est hyper impressionnant, quoi.
Je crois que c'est 26 avec deux campus, mais oui, c'est vrai que c'est bien.
Puis après aussi, être en asso, c'est avoir un soutien pour mettre en avant vos idées, quoi. C'est un truc qui est génial. Donc,
Puis aussi, du coup, on pourra caractériser un peu le monde associatif comme la culture d'une école de commerce.
Ben, clairement. Ouais, clairement.
Tout à fait.
Puis en plus, là, il y, y a un engouement quand c'est une asso qui organise, et vous êtes écouté. Donc, c'est vraiment cool, quoi. Puis après, je participe au podcast. Ça aide. Hein.
Ça enrichit la culture de tout le monde. Hein.
Exactement. Tout à fait. Sans prétention. Mais oui, non, mais ça aide. Mais après, participer à des podcasts comme vous organisez, c'est aussi, je trouve, mettre en avant la culture et c'est important.
Quels sont pour vous les principaux points du coup, qui caractérisent la culture? Ce qu'on a déjà vu un peu, si vous en avez un ou deux.
Là, c'est quelques mots. Ça va être la diversité.
Ouais.
L'audace, la force de proposition, le savoir et le dépassement de soi.
Okay.
C'était très, très clair, très précis.
Oui. Et du coup, pour quelque chose de peut-être un peu plus long, est-ce que vous avez eu des expériences pendant votre vie qui ont été compliquées ou difficiles à surmonter?
Ouais, il y a une grosse expérience, la récente, c'était compliqué. J'étais dans un métier qui ne me plaisait pas, je subissais des choses... compliqué et ça a déteint sur ma vie privée et ça a été compliqué, mais ça m'a appris qu'il fallait pas baisser les bras et que quand on se bat pour obtenir ce qu'on veut, on l'a. Après voilà, faut utiliser des moyens en étant malin ou en forçant les choses. Moi j'ai forcé tout en étant malin, mais ouais, ça a été une période très compliquée et si j'avais pas forcé sur l'opportunité que j'avais, j'aurais pas réussi, quoi.
Donc pour vous, la leçon à tirer de cette expérience, ce serait la motivation et la détermination.
Ouais, okay. Jamais baisser les bras. C'est parce beau. Que je pars du principe que... Après, ça engage que moi, mais ce que la vie nous propose, que ce soit positif ou négatif, elle nous propose parce qu'elle sait qu'on est capable de le surmonter. Ça fait mal à des instants, et puis d'autres, après, on se dit ouais, mais putain, je suis parti de là-bas, je suis arrivé là, pas mal.
Ça aurait été pour quelque chose, c'est entre ça. Guillemets. Ouais.
Bah, à la fin, ça m'a permis de découvrir un métier passion que je ne connaissais pas du tout. Quoi, donc,
tout à fait.
C'est toujours plus facile, je trouve, de partir défaitiste ou d'être défaitiste, mais à l'époque, je l'étais beaucoup, donc je le suis encore un peu sur certains points. Je l'étais beaucoup, mais. En fait, je partais du principe en me disant « Ouais, je suis défaitiste, du coup, je pense ça, mais il va m'arriver l'exact contraire. » Pas du tout. Mais dans certains cas, ça a été le cas. Hein. Avant d'arriver à cette philosophie qui dit « En fait, si t'arrives ça dans la vie, c'est que ça doit t'arriver.
Mm-hmm. »
Et ça t'amènera forcément à quelque chose, ce sera bénéfique, quoi qu'il arrive. Quelque chose de mal ou de bien t'arrive, ce sera forcément bénéfique. Ce qui est, je trouve, dans l'ensemble vrai aujourd'hui. Mais à l'époque, je me disais « Ouais, là, t'es de la merde. » Il va t'arriver des trucs bien. Et donc des fois on a des gros coups de chance, mais c'est souvent pas le cas, quoi. Faut vraiment rester
beaucoup cru positif. Dans le côté yin et yang, du coup.
Ouais, pendant très longtemps, ouais. Ça a été, il y a le bien, il y a le mal. On m'appelle le post-it puisque j'ai des tatouages et c'est des citations principalement. Et, mais ma vie est faite de citations et des trucs tout cons, mais dans Harry Potter, c'est un film tout bête, mais il y a deux phrases dans le film 5, donc L'Ordre du Phénix et dans la deuxième partie des Reliques de la Mort. La première dans L'Ordre du Phénix qui est « T'es pas quelqu'un de mauvais, t'es quelqu'un de bien à qui il est arrivé de mauvaises choses. » Et ça, je trouve que, waouh, ça a un impact de dingue parce que ça veut dire que on peut choisir d'être bien ou pas bien, mais que les événements dans la vie font que tu peux changer en bien ou en mal.
Ça ne te définit pas, quoi.
Donc, ça ne te définit pas. Donc, c'est impressionnant. Je pense qu'effectivement, quelqu'un qui a perdu ses parents très tôt est peut-être quelqu'un de plus anxieux et plus agressif dans la vie que quelqu'un qui a eu ses parents tout le temps. Parce qu'il y a eu un... Enfin voilà, ça a des impacts, mais ça ne veut pas dire que quelqu'un est méchant. Et la deuxième phrase, c'est la plus puissante des magies, ce sont les mots. Et c'est vrai que les mots, et je pense que c'est aussi pour ça que ça a bien marché quand j'ai pu aider des étudiants, c'est que les mots sont là pour défoncer, agresser les gens, mais aussi pour les guérir et trouver des solutions. Donc c'est hyper important malgré tout.
Dire les bons mots,
dire les bons mots, utiliser les, ouais, utiliser effectivement les bons mots au bon moment. Mais pourquoi le dire à ce moment-là et pas à ce moment-là? Bon, après ça c'est l'expérience. Mais les mots soulagent les consciences. Moi j'ai eu pas mal de gros ratés dans ma vie et quand j'y ai réfléchi après, ce qui a toujours foiré, c'est parce qu'on n'a pas parlé. Et donc maintenant moi je dis tout ce que je pense. Bon, bien sûr, il y a une façon de le dire, mais je dis tout ce que je pense. J'essaie de dire aux gens que la communication, c'est ce qu'il y a de plus important. En fait, ça, la dyslexie, malheureusement, n'est pas... On a une méthode de travail qui est différente et c'est pas connu, donc j'en veux à personne. C'est juste que j'ai eu la chance d'avoir un orthophoniste, donc de pouvoir m'en sortir. Mais en fait, c'est moi qui devais m'adapter et pas l'inverse. Donc ça a été très compliqué. Et en fait, enfin, faire des études, s'adapter... Ça marche pas, travailler deux fois plus que les autres pour avoir deux fois moins de résultats et entendre les profs qui vous disent bah, en fait, t'es pas terrible, tu sais pas faire. Ouais, c'est un peu chaud. Ouais. Mais moi, ma force de caractère, ça a été de dire bah, en fait, je vais te prouver que je suis meilleur que ce que tu dis. Et voilà. Et puis maintenant, je trouve que c'est assez marrant parce que peut-être le fait de travailler dans une école, c'est aussi, comme moi, j'ai beaucoup souffert de ça, c'est peut-être apporter des moyens de soulagement et des conseils aux étudiants qui sont dans la même situation, dans des situations encore plus difficiles, parce qu'on ne va pas se mentir, il y a eu et il y a, oui. Et il y aura malheureusement pire que moi, toujours.
Toujours, pas comme partout, mais oui, si vous pouvez aider un peu des personnes qui auraient pu être dans la même situation que vous, c'est vrai que
c'est ça. Non,
ça permet d'arranger les choses. Comment votre licence en cinéma et audiovisuel vous a-t-elle préparé pour votre rôle du coup, d'assistant de scolarité?
En fait, pour moi, les deux sont indépendants. J'ai vraiment fait la fac à défaut de pouvoir faire une... école payante qui était à l'époque, non, on va pas faire de pub, mais qui était une école de cinéma privée qui coûtait 7 000 euros. Donc voilà, moi j'avais pas les moyens.
Oui.
Donc c'était, j'avais pas le choix, j'ai fait la fac et du coup la fac m'a appris toute la théorie que je pensais connaître sur le cinéma et pas du tout. Mm-hmm. Donc ça a été surtout ça, ça a été un choc de me dire ouais, en fait les études supérieures servent quand même, c'est oublié, enfin c'est pas. Pour les domaines où on veut aller, on a quand même affaire à des spécialistes, même en fac. Donc, ça reste hyper important. Après, voilà, il faut charbonner à côté. Enfin, moi, j'avais besoin de ça, de trouver la pratique pour accompagner la théorie, pour bien comprendre. Mais ça ne m'a pas vraiment aidé à faire une licence. Une licence, ça apporte une culture, mais ça ne m'a pas vraiment aidé à me dire que je serais dans la scolarité après. Ça m'a permis de découvrir, en comparaison de la fac, en revanche, est-ce qu'une école...
C'est plus l'ambiance voilà. Qui vous a permis de... Ok, d'accord.
Après, ça n'a pas vraiment préparé au rôle. Franchement, c'est la vie, les études, le hasard des choses qui ont fait que je suis arrivé là, quoi.
D'accord.
Et est-ce que vous pensez que vos études ou même simplement votre passion pour le cinéma et l'audiovisuel, aujourd'hui, ça influence votre approche avec votre travail actuel et avec les étudiants ou pas particulièrement?
Ça... peut influencer dans le sens où quand j'explique des choses et qu'on ne comprend pas forcément, je réexplique différemment. Donc il y a tout un schéma qui se met en place dans ma tête. Et la chose toute bête, ça m'a quand même donné des compétences parce que le dossier de rentrée qui reste numérique, et qui n'est pas forcément intuitif. C'est moi qui ai réalisé le tutoriel du coup pour avec des captures d'images comme vous l'avez vu et qui permet de faciliter les choses. Donc influence oui, disons que ça me permet de faire de bonnes métaphores quoi.
Okay. Donc, quel conseil donneriez-vous aux étudiants qui envisagent de suivre une formation dans le cinéma ou l'audiovisuel?
Bah, si vous croyez en vos rêves, vos capacités et que vous n'avez pas peur de provoquer la chance, c'est faut foncer quoi.
Soyez les prochains Christopher Nolan.
Ouais. Alors après là c'est du gros niveau, mais quand on a l'ambition, pourquoi pas. Après ouais c'est vraiment moi c'est en fait c'est rien lâcher. Et de toute façon ça rejoint un peu avec la vie nous fait faire des rencontres ou nous met face à des situations qui sont compliquées, mais chaque situation positive ou négative ou entre les deux nous fait grandir et nous apprend et nous permet d'aller de l'avant. Moi, après, j'ai pas continué le cinéma parce que j'en vivais pas, très clairement. Après, faut pas oublier que je suis parti de rien. Donc, j'ai créé un collectif, j'ai fait 11 films, 4 clips, et deux de mes 11 films ont fait 3 festivals. Donc, il n'y a eu aucun prix, mais j'ai une satisfaction très personnelle d'être parti de rien et d'être arrivé à ça. La vie a fait que j'ai dû prendre des décisions personnelles. Et donc, je suis devant vous aujourd'hui, ce qui est très bien. Même en faisant du cinéma, je ne suis pas sûr que j'aurais pu faire de la radio. En fait, faut rien lâcher, faut croire en vos rêves. Et j'avais une image de prof à la fac qui me disait ça. C'est que quand on vous ferme une porte, vous passez par la fenêtre. Si c'est vraiment ce que vous voulez faire, vous n'hésitez pas. Même si c'est un Velux, ça passe. Faut rien lâcher. Tant que le mot fin n'est pas écrit, ce n'est pas fini, quoi.
Et comment aussi vous pourriez rassurer les élèves à propos de leur employabilité?
Très bonne question. Merci Léna.
Très pertinent.
Alors j'ai conscience que nous sommes une génération différente, même si je ne suis pas si vieux que ça, je vous rassure. Mais les choses ont évolué, je pense que c'est dans le bon sens. Beaucoup d'entreprises demandent de l'expérience, ça c'est on le remarque avec les demandes de stage que vous pouvez faire et les retours que vous avez des entreprises, donc on est d'accord. Mais quand je vois le parcours scolaire que j'ai eu et mon expérience que j'ai eu, il n'y a rien de plus bordélique, je pense, et ça ne m'a pas empêché de trouver un boulot. Donc le secret pour moi, ça a toujours été de rester qui je suis aux entretiens, je suis jamais autant détendu qu'aux entretiens, vraiment. Je suis un grand stressé et les entretiens, je me dis je l'ai, c'est que je dois l'avoir. Si je l'ai pas, c'est que je dois pas l'avoir, donc c'est pas grave, on continue. Et je suis hyper détendu, mais je suis toujours sincère et naturel. Et donc quand j'ai commencé à la scolarité, j'avais jamais fait de scolarité de ma vie, j'avais jamais touché un tableau Excel. J'ai su me vendre. Après il y a eu un feeling qui est passé aussi et j'ai bossé derrière pour y arriver, mais je pense que c'est vous vendre comme vous êtes. L'expérience, c'est toujours un plus, mais c'est pas ce qui fera de vous ce que vous voulez faire. Qui fera de vous que vous aurez le job. De toute façon, moi j'ai une licence au cinéma audiovisuel et je travaille dans un domaine qui est totalement à l'opposé. Donc ça veut rien dire. Mais je pense que votre façon d'être, votre façon de vous vendre, c'est la meilleure des choses, quoi.
On peut en retirer qu'il faut faire ce qu'on souhaite dans la vie.
Ouais.
Pas s'arrêter,
c'est ça.
Passer par la fenêtre, comme on dit.
C'est ça.
Mais surtout, on n'est pas condamné, entre guillemets, à nos formations pour que ça, entre guillemets, dicte le restant de notre vie, quoi.
Non, non.
Vous en êtes la preuve, quoi, du coup.
J'aime bien cette idée. Mais, c'est ça. Sauf si vous mettez des barrières, normalement, même si les gens vous les mettent, c'est pas grave. On saute, on continue.
Ouais, on passe à côté. Ouais.
Après, sauf les gros aléas dans la vie que je souhaite à personne, mais faut ne pas avoir de regrets, quoi, jamais.
Pouvez-vous nous partager un projet sur lequel du coup vous avez travaillé pendant votre licence et dont vous êtes fier? Je suppose que ça va être les deux films qui sont passés en festival.
Donc c'est affreux à dire, mais j'ai jamais fait de film pour la fac parce que du coup ça s'arrêtait moi j'ai arrêté bac plus 3, donc en licence, et après ça continue en master où là c'était un peu plus c'est pas que c'était pas sérieux ce que je faisais avant, mais un peu plus sérieux et plus poussé. Là, oui, effectivement, on pouvait demander des films, on pouvait demander plein de choses, mais moi, donc, j'ai tout fait en autodidacte, et c'est les deux films, les deux derniers films qui seront effectivement, qui seraient, pardon, les plus aboutis. Alors après, en termes de court-métrage et en termes amateurs, parce que ça reste de l'amateurisme, hein, malgré tout. Mais ouais, j'en suis très content parce que c'est des scénarios originaux pour les deux. Donc tout est sorti de ma tête. Et se dire que, bah, en fait, c'est parti d'une idée, on l'écrit, on la fait lire à des gens disent « Ah ouais, c'est pas mal. » Et tu leur demandes « Tu veux le faire avec moi ?» Mais t'es pas payé parce que je finance le film, pas les gens qui travaillent avec moi. « Ouais, je veux bien. » Et du coup, bah voilà. On fédère, on travaille, d'une idée sort un film. Et après avoir... voilà, les festivals ne sont pas venus me chercher, c'est moi qui les ai envoyés, mais on peut très bien avoir des refus. Et donc, c'est, ouais, c'est ça mes plus grandes... enfin, à aujourd'hui, ma plus grande fierté, de se dire qu'on part de rien, sauf des petites connaissances qu'on a et qu'on arrive à faire l'âge vitrine et traversée nocturne, et que ces deux-là sont, sont bien. Et ils ont été faits par un Livio Ciccio.
Ciccio, c'est très important.
Ce n'est jamais mon vrai nom.
Qu'est-ce qui vous fait rêver ?
J'ai toujours ce rêve de vivre de ma passion première qui est le cinéma. Après, je ne sais pas de quoi demain est fait, donc peut-être que j'aurai une autre passion qui se fera. Et je voudrais vivre de celle-là. Aujourd'hui, je suis aussi très à l'aise avec l'idée de me dire bah, « En fait, ouais, mais ta vie, ce sera de t'occuper des étudiants, finalement. » Et ça ne me gêne pas du tout. Parce que comme je l'ai dit plusieurs fois, voilà, c'est vraiment un public qui est différent. Forcément, un jour, je serai confronté à d'autres générations encore plus jeunes, donc c'est aussi rester dans le move. mais voilà, c'est... Après, un rêve, ouais, ça aurait été de vivre de ma passion, mais à contrario, et ça, ça a toujours été le cas, et ça l'est encore aujourd'hui, c'était vivre de ma passion, mais sans être connu.
Ok.
C'est-à-dire que moi, je veux vivre de ma passion... Bon, bien sûr, on veut tous de l'argent, on va pas se mentir, mais vivre de ma passion, mais en tout cas, je veux pas tout ce qu'il y a autour, quoi. Les paillettes, la vie privée scrutée, bah, d'ailleurs, on n'a pas de vie privée, moi, c'est des trucs qui m'intéressent pas. Donc, ça a toujours été contradictoire. C'est aussi pour ça que très tôt, j'ai me suis mis un nom d'artiste. Bon, je me suis dit, le jour, c'est jamais, hein, où je perce, très peu, bon, maintenant un peu plus, mais très peu de gens connaîtront mon vrai prénom, mon vrai nom. Donc, maintenant, si vous me voyez un jour, vous saurez. Mais c'était, voilà, pour moi, ça a toujours été très important de vie privée et vie pro. Donc, ça a été, voilà. Idéalement, ouais, ce serait quand même...
pouvoir allier les deux.
Pouvoir allier les deux, ouais, tout à fait. Donc,
il y a Prisme.
J'ai pas encore réfléchi. Il y a Prisme. Ouais, mais j'ai pas encore réfléchi à la chose. Mais idéalement, ouais, ce serait ça. Ce serait, en tout cas, aujourd'hui, ce qui me motive vraiment plus, c'est aider les étudiants, mais avec un mélange de... la culture, la vie associative et la scolarité.
Oui.
Mais ayant fait la scolarité, si un jour je me mets à travailler sur un autre point avec les étudiants, je sais ce qu'on attend derrière aussi de vous. Donc je saurais faire, je pense, du moins j'espère, le bon compromis. Donc ouais, ce serait hyper intéressant. Mais moi en fait, j'ai eu beaucoup de merci l'an dernier. Ma grande surprise sur beaucoup d'étudiants qui étaient très contents d'avoir échangé avec moi et ça les a aidés dans leur choix. Donc c'était ça, c'est un rêve que j'avais pas. Et en ayant eu ces merci et des gratitudes assez incroyables, voire incroyables, c'est se dire waouh, en fait, j'ai aidé des gens, j'ai fait rêver des gens peut-être, et aujourd'hui moi ça me satisfait amplement.
Puis surtout quelqu'un qui apprécie le boulot que vous avez mis dedans pour les aider, pour faire quoi que ce soit qu'ils avaient demandé. Et c'est vrai que moi-même, je pourrais le reconnaître. Chaque fois qu'on vient, vous êtes très content de nous voir. Qu'est-ce qu'il y a comme problème, machin. Puis on trouve une solution. Donc ça, c'est vrai que c'est très, très bien. Et puis, encore heureux qu'il y ait des gens qui vous remercient pour un tel travail. Hein.
Ah, après, je ne fais pas ça pour être remercié. Mais quand on a des merci, ça fait extrêmement plaisir. Ouais. Puis après, moi, comme je dis, de toute façon, ma plus grande gratitude, c'est que vous ayez votre diplôme.
Tout à fait.
Le reste...
Et le TOEIC.
Ouais, ça, c'est d'autres exigences, mais... non, c'est important, le TOEIC, faut le dire. Ouais.
Bah, pour avoir le diplôme, oui, du coup, c'est important.
J'ai toujours triché avec l'italien, moi, mais...
Pouvez-vous nous parler d'un film ou d'un réalisateur qui a influencé, du coup, votre manière de voir le cinéma ? dont vous avez dit Charlie Chaplin.
Bah, Charlie Chaplin, ça c'est notamment. Alors après, il y a, je sais pas spécialement de films. Bon, je suis un grand fan d'Harry Potter, mais ça, ça n'a rien à voir. Mais je sais pas spécialement de... J'aime beaucoup les films comme Love Actually, les films romantiques comme okay. ça. C'est le côté contraire. Italien. Les étoiles, ouais, pas trop, mais moins. Okay. Ouais, moins, mais Love Actually que j'ai beaucoup aimé et que j'aime toujours autant. Et c'est un film que quand je vais, c'est bien, c'est français ça. Mais c'est un film que je regarde quand je vais absolument pas bien, donc c'est cool. Okay. Dans le même registre et par le même réalisateur qui est Curtis, mais j'ai plus le prénom. Il y a About Time avec Rachel McAdams. Mm-hmm. C'est un film magnifique, celui-là, sur l'amour mais familial. Et l'amour, l'amour qui est mis sur un piédestal. Bref, je m'éparpille, mais après, sur les façons classiques, ça va être du Roberto Benigni, où il arrive à transformer le drame en drôlerie et en poésie, mm-hmm. notamment La vie est belle. Après, il a fait aussi Le tigre et la neige, où c'est une très belle déclaration d'amour à sa femme sur une heure et demie. Donc, c'est très, très beau. Wow. Après, il y a Clint Eastwood, que j'aime beaucoup pour sa façon de travailler, filmer, et puis de voir... ce qu'il arrive à faire avec son grand âge et sa grande expérience, donc c'est assez dingue. Après, il y a Tarantino, n'oublions pas le côté un peu hémoglobine, que j'aime beaucoup. Ça reste malgré tout des histoires d'amour, hein, Tarantino, parce que Kill Bill, c'est une histoire d'amour qui tourne mal, et c'est principalement des histoires...
c'est vrai qu'il y a toujours une histoire
C'est une histoire d'amour. Ouais. C'est Tarantino, c'est caché, mais ça reste sa motivation première, et puis c'est aussi montré... quelqu'un qui, pareil, est parti de rien, parce que lui, il était passionné de cinéma, de western et de films d'arts martiaux notamment. Il travaillait dans un vidéoclub et ses études, c'était voir tous les films du vidéoclub. Et il est devenu ce qu'il est aujourd'hui, donc c'est assez dingue. C'est excellent, c'est pas assez dingue, c'est excellent. Et puis après, il y a aussi Burton, qui est un incontournable,
oui.
parce que c'est à aujourd'hui, et je pense... ça va rester pendant très longtemps, c'est quand même l'un des seuls réalisateurs qui nous invite à aller dans sa tête, quoi. C'est ouf. Je sais pas si vous avez eu l'occasion ou juste la curiosité, mais regardez, tapez sur Google maison Tim Burton et vous verrez son jardin. C'est comme dans Pee-wee, oui. l'un de ses premiers films. C'est dingue. Ah ouais, c'est il a une maison, on a envie de waouh, moi j'y vais, et ça représente vraiment ce qu'il a dans sa tête. Et puis pareil, hein, c'est un petit peu des histoires d'amour aussi, Burton. Hein, donc, les noces funèbres.
Oui.
Sleepy Hollow. En fait, à chaque fois, c'est con, mais c'est des films où il y a un point qui est l'amour. Alors après, l'amour, n'importe quel aspect qu'il a, mais il y a toujours... Voilà, ça reste comme des réalisateurs qui travaillent sur l'amour, qui partent sur la base de l'amour, et ça part là-dessus. Donc quand je dis ça, on me traite un peu de fou, mais quand on regarde dans le fond vraiment l'histoire... Mais je fais, vas-y, dis-moi, c'est quoi l'histoire de Et tu leur prouves par A plus B que, bah ouais, mais en fait, s'il fait ça, c'est parce qu'il y a une histoire d'amour derrière. Quoi. Donc, c'est impressionnant.
C'est pas Tim Burton aussi qui a fait Big Fish?
Big Fish.
Ouais, c'est ça. Ouais. Mais très bon film, celui-là.
Très, très bon.
J'ai bien aimé.
Bah, il y en a qu'un que j'aime pas, moi, de Burton, c'est Sweeney Todd. Ou Sweeney Todd. Ouais. Mais ouais. Non, pourtant, j'adore les comédies musicales, mais là, ça marche pas du tout. Quoi. Moi, j'aime pas du tout.
Mais du coup, pourquoi?
Pourquoi l'histoire, qui est une histoire d'amour, celle-là
ne vous a pas
plaît pas. Je sais pas. Pour moi, on est très loin de son univers, malgré tout.
Okay.
Alors que Ed Wood, qui n'est pas spécialement connu et qui est un biopic, et moi j'adore ce film. Quoi. C'est vraiment. Ed Wood, c'était le réalisateur le plus critiqué d'Hollywood, parce qu'il fait. Franchement, vous regardez les extraits des films de Ed Wood, c'est des films. C'est de la merde. Enfin, il a vraiment fait ça en papier mâché et tout. Et en fait, il a tellement fait des films mais nuls en termes de montage et d'effets spéciaux que ça en est devenu culte. Et Ed Wood de Tim Burton, c'est le biopic sur Ed Wood qui est joué encore une fois par Johnny Depp.
Okay.
Et celui-ci, c'est un peu l'OVNI de sa filmographie avec Mars Attack. Il y a un hommage qui est rendu, et toujours avec l'univers de Burton, et tout le film est en noir et blanc. Donc c'est...
Okay. Mais c'est tout dans l'histoire, du coup. Il a vraiment rien du tout misé sur tout ce qui est fait. Un
ça
peu
fait très longtemps que je l'ai pas vu. Mais il met en avant. Bon, en fait, il met en avant l'amour d'Ed Wood pour le cinéma et son côté ringard qu'il assume, quoi.
D'accord, oui.
Mais vraiment.
Okay. Et est-ce que votre perception des films, elle a changé après avoir appris les aspects un peu techniques et ce qu'il y a derrière dans le cinéma pendant votre licence?
Bah, clairement, parce que quand je suis arrivé à la fac, je pensais, alors pas tout, mais je pensais savoir beaucoup de choses sur le cinéma. Et alors, d'un point de vue filmographie et cinéphilie, oui, Par contre, tout ce qui était technique, j'y connaissais rien. Les plans américains, les plans larges, les dolis, les plans... on a un gros plan, plan d'angle, plan italien, les italiennes sur les tournages aussi, les allemandes, tout ça, c'est un jargon que moi, j'avais pas. Donc, les italiennes, pour rendre un peu hommage à mes origines, c'est faire la répétition des scènes, mais sans le son. Donc, okay. C'est toute la gestuelle italienne.
D'accord.
Et l'allemande, c'est l'inverse. C'est la... Ou américaine. Non, américaine, c'est western, donc c'est plan jusqu'à la taille. Mais la... une allemande, c'est on fait une répétition sans... forcément la gestion de la mise en scène, c'est que c'est la, juste le parler. L'oral, okay. Donc il y a tout ça, savoir les différentes caméras, les différentes positions. Ouais, franchement, j'ai appris tout ce que je savais pas derrière la caméra. Et après, malgré tout, le fait d'avoir fait la fac de cinéma, il y a aussi le fait d'avoir rencontré d'autres passionnés. Donc d'autres passionnés apportent ce qu'on connaît pas, nous apportent une culture qu'on ne connaît pas. Moi, j'ai découvert beaucoup de réalisateurs que je ne connaissais pas, notamment des réalisateurs asiatiques. C'est un univers que auquel je n'accroche pas, mais par exemple, Kim Ki-duk, c'est un grand cinéaste coréen, il me semble. Et il y a aussi Takeshi Kitano, qui est un grand réalisateur japonais qui fait que des films sur les samouraïs. Bon, voilà, moi, ça m'a apporté toute une culture que je ne connaissais pas. Et qui était hyper intéressant. Donc oui, ça m'a permis vraiment de voir deux choses distinctes. Et puis la figuration m'a permis aussi de voir ce qui se passe derrière. Les équipes, le jeu d'acteur, les éclairages. Maintenant, dans les images, j'arrive clairement à distinguer les nuits américaines ou les images, les lumières artificielles ou les lumières naturelles. Donc y a tout ça. Et puis tout le travail titanesque qu'il y a derrière, et ce qui est impressionnant, c'est que si tout ce beau monde n'est pas en cohésion, vous pourrez toujours faire un film, certes, mais ce sera très certainement de la merde. Donc, parce que ça n'a pas marché.
Tout à fait.
Et ça se ressent, il faut qu'il y ait une bonne ambiance sur le plateau, le tournage. Donc c'est, tout le monde est indispensable. Moi, quand je faisais mes films, j'étais très souvent derrière la caméra, mais je ne tenais pas la caméra. Parce que je cadre très mal. Okay. Mais j'avais mon chef-op qui retranscrivait ce que je lui disais. Et il y a un film, notamment, que j'ai fait, qui est Traversée nocturne, qui est un film sur la beauté du corps, notamment le corps féminin. Et là, moi, j'ai voulu que ce soit une femme qui filme. Donc, c'était une chef-opératrice que j'avais qui filmait ce que moi, je voulais qu'on voit. Pour pas que ce soit du nu pour du nu. Quoi. Je voulais vraiment qu'il y ait un œil féminin. Il faut quelqu'un qui sache... que nous on veut retranscrire, la relation se passe bien, il faut avoir confiance, mais je pense que chacun a son travail. Donc moi, en tant que réalisateur, j'écrivais, je réalisais, donc j'étais derrière la caméra, mais je donnais juste les actions, et après le montage, pareil, je le faisais faire par une monteuse.
Okay,
j'étais là sur le montage, parce que je veux pas, mais c'est elle qui faisait tout. Déjà, c'est un gain de temps parce qu'ils s'y connaissent, et moi j'ai besoin d'avis extérieurs pour avancer. Et ça apporte d'autres idées. Plus ma monteuse, moi je voulais absolument pas qu'elle vienne sur le tournage.
Ok, oui.
Parce qu'elle a lu le scénario, elle a son idée. On arrive au montage, j'ai toutes les images, je fais voilà, on fait ça, ça, ça. Et elle, en fait, elle a les idées neuves. Et donc ça marchait très très bien pour moi. Donc il y avait vraiment ce côté-là, quoi. Enfin, c'est indispensable que. Moi, c'est ma façon de travailler, que l'équipe. Tout fonctionne. Qu'on se trompe pas, que... et puis moi le truc tout con, hein, je peux dire bah voilà, tout a fonctionné, et le chef-op me dit bah non, là il y avait un truc qui allait pas, la lumière va pas, le champ, il y a un truc dans le champ, pour moi ça matche pas. Il y a toute autre approche maintenant.
Comment percevez-vous le rôle du cinéma dans la société, et du coup quel impact pensez-vous qu'il peut avoir sur des individus et du coup la culture en général?
Pour moi, donc le cinéma reste un facteur, c'est indispensable pour la détente avant tout, mais surtout pour véhiculer un message. Avec l'image notamment le cinéma ou l'audiovisuel, on peut vraiment mettre en avant ce dont on a vraiment envie de parler, les histoires vraies, les biopics, et il y a les documentaires. On met à jour des choses qu'on ne connaît pas forcément, et on peut mêler ça à la fiction. Donc c'est vraiment, culturellement, ça a un impact vraiment fort, je trouve. Ça permet d'être informé et détendu en même temps. Donc c'est cool. Donc après, j'espère que ça peut avoir un impact positif, mais aussi permettre des coups de gueule et de faire bouger des choses, quoi.
Surtout que le fait de passer un message, je veux dire, au tout début du cinéma, c'était un peu de la propagande. Le fait qu'ils sortent des films,
On s'en est servi comme moyen de... Oui. Enfin, on s'en est servi. Les autres, non pas ça. Mais oui, effectivement, ne serait-ce que pendant la Seconde Guerre mondiale, Goebbels a fait du cinéma un outil de propagande assez incroyable. Donc ça a une force. Ouais. Autant dans le négatif que dans le positif, donc c'est comme tout, faut savoir trier et être en accord avec ce qu'on pense. Pour moi, c'est presque une arme, vraiment, en fait. Pacifique malgré tout, mais
ça dépend dans quel contexte du coup on l'utilise, mais oui, ça peut être une arme.
C'est ça.
Dans certains.
Mais d'ailleurs, je crois que c'est même ça fait partie des premiers à les avoir utilisés comme outil de propagande, hein, à mauvais escient, du coup, parce que avant le cinéma, ça ne servait à impressionner. Notamment l'arrivée du train à La Ciotat par les frères Lumière, où pour l'anecdote, tout le monde s'était à crier dans la salle quand le train est arrivé et ont presque fui. Et après, on a eu Georges Méliès, qui était magicien et qui a utilisé tous ces trucages en vrai dans ses films. Et c'est le précurseur des images de synthèse. Donc c'est assez, j'aime bien ce mot, c'est incroyable, quoi. Donc. Au départ, ça servait, je pense, vraiment de divertissement, parce qu'il y avait les bonimenteurs. Et à la fin, c'est devenu un outil de communication. Là, la communication, c'est vraiment ce qui se revoit le monde. Et même pour l'Holocauste, les choses se sont arrêtées quand on a su qu'il y avait des chambres à gaz qui étaient prévues pour détruire la moitié de la population humaine. Tant que ça ne se savait pas, il ne s'est rien passé. Quand ça s'est su, ça a été scandaleux. Donc la communication, c'est quand même le centre névralgique de tout, quoi.
C'est quand on arrête de parler que met en place la violence.
Ouais.
Très beau dicton, ça aussi.
Un peu, un peu. Et puis je pense qu'il y en a beaucoup qui ruminent et après, ce qui va avec la communication, c'est l'écoute aussi.
Oui.
Des gens qui parlent mais qui sont pas écoutés, ça fait aussi mal que quelqu'un qui parle pas, quoi. C'est important de savoir écouter et c'est aussi pour ça qu'il faut savoir dire les bons mots. Après. Je pense qu'il faut quand même une formation parce que c'est pas inné, je suis pas psy, Mais c'est important d'écouter et de dire ce qui va pas à l'instant T, quoi.
Je suis d'accord.
Dans quelque relation, que ce soit familiale, personnelle, amoureuse, amicale, faut aller de l'avant, quoi.
Bon, en tout cas, merci beaucoup.
Bah, de rien, merci à vous de m'avoir invité, d'avoir pensé à moi.
Très sympathique.
C'est cool.
Une très bonne conversation qui s'est installée.
Bah, c'est réciproque, franchement. Ouais,
J'ai
adoré, s'il y en a toutes les semaines, je suis là.
Mais, on pourra en faire un autre, septembre, qui sait. Pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Est-ce qu'il y a des endroits où on pourrait aller voir vos films ou des choses comme ça? Je sais qu'on en a parlé vite fait.
Un endroit, j'ai mon site internet. Après, mon site internet a été fait de façon... gratuite, donc c'est très compliqué à le choper, mais normalement vous tapez Livio Ciccio sur Google, vous devriez tomber dessus.
Okay.
Après sinon sur YouTube, vous pouvez taper notamment les deux titres de films que j'ai nommés, qui sont Traversée Nocturne, le dernier en date qui est Lèche Vitrine, et qui sont dans deux registres totalement différents. Un qui est sur la psychologie, et l'autre qui est sur l'humour. Donc, dans les deux cas, il y a un switch final, c'est important de le dire. Mais voilà.
Merci beaucoup.
Merci à vous. C'est l'optimisme, oui l'optimisme, c'est l'optimisme, t'as pris. Le podcast qui te fait rêver avec des mots qui vont te charner.